Alors, donc, comme beaucoup des présentations, dans ce colloque, je commence par vous présenter le cadre conceptuel des socio-écosystèmes des aidants. Donc, vous voyez ici les socio-écosystèmes représentés comme quantité dynamique qui est composée donc des deux interfaces. Et ces deux interfaces sont placées dans un contexte paysager explicite. Donc, qu'on retrouve au cœur de ces cadres conceptuels. Et donc, dans l'étude d'aujourd'hui que je vous présente, on s'intéresse au suivi de ces dynamiques des paysages pour des paysages qui sont multifonctionnels, donc, comme celui qu'on voit dans cette photo. C'est un paysage brésilien où on voit en arrière-plan un parc national et des surfaces agricoles en bordure, avec un peu de végétation naturelle dans les pâturages. Et donc, dans ces paysages fonctionnels, on retrouve donc des enjeux de conservation importants et des fournitures de services écosystémiques, comme ceux qu'on peut retrouver dans la plupart des aidants. Et on s'intéresse particulièrement au suivi des dynamiques de ces paysages, car on pense que cela peut nous apporter des informations intéressantes sur l'évolution de ces interactions entre différentes composantes des paysages, donc biophysiques et sociales, et donc apporter des informations clés sur les trajectoires des socio-écosystèmes sous-jacents. Donc voilà, ça nous intéresse, mais cependant, on a très peu d'outils à disposition pour extraire des indicateurs qui sont pertinents pour faciliter ces suivis. Donc, dans l'idéal, on aimerait avoir accès à des indicateurs spatiaux sur des facteurs à l'origine de ces dynamiques des paysages, que ce soit des activités humaines ou des facteurs externes. On aimerait aussi avoir des indicateurs sur leur capacité à maintenir leur fonctionnalité écologique et leur capacité à fournir des services. Et c'est là à plusieurs échelles, puisque les composantes de ces systèmes interagissent à différentes échelles spatio-temporelles. Alors bien sûr, on n'a pas trouvé la solution magique pour répondre à tous ces besoins, mais on développe des nouvelles approches pour essayer d'apporter des indicateurs pertinents et de combler ces manques d'informations spatiales qu'on a souvent pour ce genre d'analyse. Donc l'approche que je vous présente aujourd'hui est entièrement basée sur des outils de télédétection. Donc, cette technologie est devenue presque incontournable pour le suivi des dynamiques paysagères, car elle est en général bien adaptée. C'est notamment grâce à l'évolution de la technologie satellitaire et des techniques de traitement des données qui sont de plus en plus performantes. On peut maintenant extraire des informations spatiales qui sont, donc on le sait, synoptiques et répétitives, donc grâce aux acquisitions continues des images sur l'ensemble du globe. Elles sont robustes donc, et cohérentes dans le temps lorsqu'on applique les mêmes traitements sur le même type d'image et diverses puisqu'on a une multiplicité des capteurs qui fournissent des données avec différentes caractéristiques. Donc, ces informations sont donc idéales pour extraire différents indicateurs sur à la fois la composition mais aussi l'état et la structure des surfaces terrestres et pour suivre leur évolution dans le temps. Mais malgré donc, la grande diversité d'indicateurs qu'on pourrait extraire par télédétection, la plupart d'approches pour le suivi de dynamique des paysages mobilisent uniquement des indicateurs d'occupation et d'utilisation des sols. Donc, vous les connaissez, ils sont extraits à partir des classifications d'images satellitaires et ils offrent une représentation discrète des surfaces. Donc, quand on fait des analyses dynamiques avec ces indicateurs, donc typiquement dans cet exemple, une analyse sur 10 ans au Brésil, donc on peut suivre l'évolution dans la composition des paysages et on peut quantifier l'extension des changements. Donc, par exemple, pour un front pionnier agricole, on peut obtenir la surface totale de végétation naturelle qui a été transformée en culture. Par contre, avec ces indicateurs, on ne peut pas, on ne peut pas évaluer des changements plus subtils dans les surfaces, donc comme des changements dans la phénologie, dans la productivité ou dans la structure de formation végétale. Or, ces informations peuvent être importantes pour estimer des potentielles pertes dans la fonctionnalité écologique des paysages et bien sûr dans leur capacité à fournir des services. Donc, ces changements plus fins qu'on ne peut pas capter avec l'occupation du sol peuvent néanmoins être détectés à l'aide d'indices radiométriques, donc, qui sont calculés, eux, à partir de la radiométrie des images et qui représentent différentes propriétés des surfaces sur des gradients continus, donc à l'échelle des pixels. Alors, ces indices radiométriques offrent donc une information qui est complémentaire sur la dynamique des paysages à celle apportée par les indices classiques d'occupation du sol. Donc, par exemple, ici, dans cette forêt, on remarque qu'entre 1990 et 2002, l'occupation du sol n'a pas changé, donc ça reste une forêt. Mais un indice radiométrique montre bien qu'il y a eu une perte générale de productivité de la végétation qui est plus ou moins importante selon ces gradients d'orange. Donc on voit bien l'intérêt de combiner ces deux types d'indicateurs pour obtenir des informations complémentaires, mais en vrai, ils sont rarement utilisés ensemble pour l'analyse des changements paysagers. Donc, nous avons développé une approche simple qui simplement combine des estimations de changements d'occupation et d'utilisation de sol avec trois indices radiométriques qui sont basés sur l'indice de végétation le plus couramment utilisé, qui est le NDVI. Donc, cette approche a été présentée au travers d'un cas d'étude dans ce papier de Remote Sensing, que je vous invite à lire si vous voulez avoir tous les détails. Je vais juste montrer un aperçu très rapide. Donc, pour illustrer notre approche, nous l'avons appliquée dans l'ensemble d'un réseau des zones protégées du Cerrado brésilien, donc la savane brésilienne. Pardon. Et donc, ici représentée en vert clair, et dans des zones tampons des 10 km autour des aires protégées, en vert foncé. Donc, c'est des zones où les activités humaines sont normalement limitées et régulées. Et donc, au total, on a analysé une surface d'environ 91 000 km². Donc, on a d'abord analysé les changements d'occupation des sols sur 15 ans, entre 2001 et 2016, à partir des données map biomasse, donc à 30 mètres de résolution spatiale. Et donc vous voyez ici les résultats pour l'ensemble des zones protégées, donc qui sont résumés dans ces diagrammes de 5K. Donc vous voyez à gauche les nombres d'hectares pour chacune des 10 classes d'occupation du sol en 2001, et à droite le nombre d'hectares en 2016, et les flous entre les différentes classes d'une année à l'autre. Donc ces résultats mettent en avant une perte de végétation naturelle nette qui est relativement faible au sein des zones protégées, donc, puisque les changements ont eu lieu essentiellement entre la classe forêt et autres formations végétales naturelles. Donc ici, les gros flous qui se croisent en vert foncé et vert clair. Et quand on regarde les résultats pour les zones tampons, on remarque cette même dynamique. Donc, il y a encore ces flux croisés entre les types de végétation naturelle. Mais on remarque aussi donc la deuxième transformation des surfaces qui a été la plus importante, qui est celle liée à la conversion de la végétation naturelle en terre agricole. Donc, il y a eu environ 50 000 hectares dans les zones protégées où cette conversion est strictement interdite et presque 500 000 hectares dans les zones tampons. Donc malgré cette conversion d'une partie des surfaces, la grande majorité des changements d'occupation du sol sur cette période de 15 ans n'a pas connu de changement. Donc comme vous pouvez le remarquer dans la largeur des flous horizontaux par rapport à celle des flous croisés. Voilà. Et donc, je montre ici un exemple représentatif de ces résultats, qui est le parc estadual das Nascentes do Rio Taquari, donc en jaune délimité ici, et ça donne tampon en pointillé. Donc, typiquement ici, il n'y a pas eu des grandes conversions de surface pour cette période de thune, autre que pour quelques zones d'ouverture de la forêt pour installer des pâturages, qui sont ici soulignés en gris clair. Et pourtant, dans les restes des zones qui n'ont pas connu une conversion d'occupation des sols, donc ici en gris foncé, il y a eu quand même des changements. Donc, pour pouvoir analyser ces autres types de changements, on a mobilisé les trois indices radiométriques dont je parlais tout à l'heure. Donc, un premier indice ici représenté est un proxy du changement de la productivité des surfaces végétales. Donc, par exemple, vous voyez dans le zoom en haut une perte de productivité due à la déforestation qui est soulignée en rouge. Et en bas à gauche, vous voyez une perte de productivité plus modérée dans un pâturage avec un rouge plus terne. Et en bas à droite, une augmentation de la production dans une parcelle agricole, donc représentée en vert. Ensuite, on a utilisé un deuxième indice qui est un proxy des changements de la phénologie des surfaces. Donc, par exemple, dans les zones agricoles de la zone tampon de ce parc, donc on retrouve des parcelles comme celle du zoom en bas à gauche, où ils ont passé d'un système de culture à un seul cycle cultural par an, en 2001, donc représenté ici par un seul pic de croissance dans l'année. Et on a passé de ça à un système avec deux cycles culturaux en 2016, avec donc deux pics de croissance. Et dans le zoom à droite, on retrouve la dynamique inverse. Et finalement, nous avons utilisé un troisième indice qui détecte des changements de la structure des surfaces. Donc, dans le zoom qui apparaît en bas, on apprécie donc une zone où la variabilité spatiale a diminué entre 2001 et 2016. Donc, en 2001, on retrouve une forêt qui est plutôt fragmentée, avec des patchs, des végétations denses et des végétations clairsemées. Alors qu'en 2016, on retrouve plutôt un couvert forestier plus dense et homogène. Alors voilà, donc même si des données des terrains seraient nécessaires pour mieux interpréter les processus biologiques qui sont à l'issue de ces changements détectés, on peut poser certaines hypothèses sur les facteurs à l'origine de ces changements, comme on vient de le faire pour les tendances observées localement, mais on peut aussi le faire à l'échelle régionale. Donc, par exemple, quand on représente les résultats qu'on obtient avec le premier indice radiométrique pour l'ensemble des surfaces en forêt, on a remarqué déjà une dispersion importante des valeurs qui est sûrement due à la forte hétérogénéité spatiale d'une zone si vaste. Mais aussi, on a remarqué une tendance générale de perte de productivité dans les forêts. Donc, typiquement, cette perte de productivité peut signaler une dégradation du couvert forestier, ce qui peut affecter la fonctionnalité écologique des zones protégées et de leurs zones tampons. Et le même indice montre la tendance inverse dans les zones cultivées, où la productivité aurait tendance à augmenter dans les zones tampons, ce qui peut suggérer une tendance générale vers l'intensification de la production à l'échelle régionale. Donc, globalement, les résultats de cette étude ont montré le potentiel de combiner plusieurs indicateurs issus de la télédétection pour analyser les dynamiques des paysages multifonctionnels. Et on a vu que ça nous apportait des informations spatiales qui pourraient être pertinentes pour tout un tas d'applications. Et donc, on a commencé à explorer ces applications, notamment grâce à une bourse de Google. Cette année, on est en train de tester la réponse des plusieurs espèces des mammifères et d'oiseaux aux trois indices radiométriques. Donc, on a récupéré des données écologiques des caméras trappes, des présences et absences d'espèces. Et on utilise la modélisation bayésienne hiérarchique pour modéliser la distribution d'espèces et tester donc le potentiel prédictif de ces indices. En parallèle, on développe un outil opérationnelle qu'on aimerait à terme rendre accessible pour que les utilisateurs puissent extraire automatiquement ces indices et réaliser des modèles avec leurs propres données écologiques. Donc, on pense que cet outil pourrait donc faire partie des autres dispositifs de suivi intra et inter ZEDA et apporter des nouvelles informations pour aider à évaluer la fonctionnalité écologique des paysages des ZEDA et la durabilité des socio-écosystèmes. Donc, avec ces perspectives, j'ai fini la présentation. Donc, un grand merci aux personnes qui ont participé à la visio et aux partenaires qui ont contribué au travail. Merci.